Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, est-ce que vous le faites toujours? Souvent? Ou plutôt rarement? Vous dites, je t'appellerai. Vous le faites? Je t'enverrai un message. Vous le faites? Je prierai pour toi. Vous le faites? Vous dites ces choses, mais est-ce que vous faites ce que vous dites? Une autre façon de poser cette question, c'est est-ce que vous êtes digne de confiance? Est-ce que vous êtes digne de confiance? Ou est-ce que vous avez tendance à oublier, à revenir sur une promesse? Bon, on trouve facilement des excuses, n'est-ce pas? Ah, je sais que j'ai dit cela, mais... Et on trouve une excuse. Et nous devons admettre que souvent notre parole n'est pas fiable. Et en regardant le monde, en regardant les gouvernements, les entreprises, les dirigeants, même chose. La parole ne vaut pas grand-chose. On ne sait même pas maintenant ce qui est la vérité. Quelqu'un ouvre sa bouche, est-ce qu'on peut lui faire confiance? On ne sait pas. Et si Dieu était comme ça? Si la parole de Dieu n'était pas fiable, si Dieu n'était pas digne de notre confiance, c'était impossible de lui faire confiance. Aucune confiance pour aujourd'hui, aucune assurance pour demain, pour le pardon du péché, aucune confiance pour le salut, pour l'au-delà. Oui, je sais ce qu'il a dit, mais tout le monde connaît Dieu. Dieu dit des choses. Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est une énorme question. Et en fait, si vous êtes chrétien, vous basez votre vie sur la confiance que vous avez en Dieu. Et c'est une énorme question pour Noé. Au début du chapitre 9, Dieu dit à Noé et à sa famille de se multiplier, de peupler la terre. Oui, mais si Dieu envoie un deuxième déluge, à quoi ça sert? Il va nous écraser, il va nous tuer. Et comme si pour rassurer Noé, Dieu lui parle encore. Et au verset 9, après avoir expliqué à Noé, voilà tout ce que vous devez faire. Il dit au verset 9, quant à moi, et ça c'est la partie la plus importante, quant à moi, j'établis mon alliance avec vous. Voilà les mots qui changent tout. Dieu établit, Dieu confirme son alliance. Nous avons déjà vu au chapitre 6 que Dieu se révèle comme un Dieu qui fait des alliances avec son peuple. Et c'est cette alliance de Dieu avec Noé que je veux examiner avec vous ce matin. Quelle est d'abord l'importance de l'alliance? Quelle est la nature de l'alliance? Et quel est le signe de l'alliance? Voilà les trois questions que nous allons poser. D'abord, l'importance de l'alliance, brièvement. Je vous dis, si je vous dis, je vous appellerai demain, ou si je dis, je promets de vous appeler demain, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Le deuxième est plus fort. Si je dis, je promets de le faire, je m'engage à le faire. Mais ai-je vraiment besoin de dire je promets? Et si Dieu dit qu'il fera quelque chose, a-t-il besoin de s'engager avec une promesse ou par une alliance? Non, il n'a pas besoin de le faire. Si Dieu dit je ferai ceci, on sait qu'il va le faire. Il est digne de confiance. Mais il choisit de confirmer avec une alliance. Il choisit de communiquer par une alliance. Dieu s'engage par une alliance solennelle. Comme j'ai déjà dit, c'est l'accord le plus solennel qui soit. La parole de Dieu est déjà sûre, déjà certaine, mais Dieu va encore plus loin. Qu'il n'y ait pas de doute, c'est pour nous rassurer, que vous n'ayez pas de doute, que tout le monde soit sûr. Dieu fait une promesse étanche, hermétique, indiscutable. C'est une promesse, une alliance en béton, on peut dire. Et il faut saisir la force d'une alliance dans la Bible. Ça faisait partie du monde à cette époque-là, encore ici, sous des formes différentes, mais tout le monde reconnaissait qu'entrer en alliance était quelque chose de très solennel. Établir une alliance était une façon de dire que je sois maudit si je n'engage pas à tenir promesse, à tenir mon alliance, à obéir à mes obligations, que je meurs si je ne tiens pas à mes obligations. Et grâce à cette alliance établie par Dieu, nous pouvons être sûrs à 100% que Dieu n'effacera pas l'humanité dans le déluge comme il a fait auparavant. Il s'est engagé par son alliance à ne pas le faire. S'il n'avait pas donné l'alliance, nous aurions pu dire oui, on peut lui faire confiance. Mais c'est comme s'il veut solidifier et fortifier notre confiance en lui. Cette alliance établie au verset 11 et puis répétée au verset 15, comme si Dieu veut le souligner. Le verset 11, il dit, j'établis mon alliance avec vous. Verset 15, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Comme si Dieu souligne à maintes reprises, vous pouvez me faire confiance. Dieu a décidé qu'il allait tolérer le mal, qu'il allait préserver la terre, qu'il n'allait pas envoyer un jugement universel. Il fait part de sa décision et dans sa grâce, il communique cette décision à Noé et à l'humanité. Dieu aurait pu, il aurait pu décider de ne rien dire à Noé. Et on pourrait dire ça aurait été une bonne idée. Si je leur dis que je n'enverrai pas de déluge, bah, ils vont continuer dans leur péché. Si je ne dis pas, ah, ils devront faire attention parce qu'ils vont se demander si on désobéit, est-ce que Dieu va nous punir? Dieu n'était pas obligé de dire. Il n'était pas obligé de faire part de ça. S'il n'avait pas dit, il aurait pu dire, ah, ils seront peut-être plus sages si je ne dis pas que je n'enverrai pas un deuxième déluge. Mais non. Dieu envoie son alliance, il fait son alliance et il fait part de son alliance avec l'humanité. Ça, c'est l'importance de l'alliance. Deuxième chose, la portée de l'alliance, la portée ou la nature de l'alliance. Normalement, quand une alliance est établie, il y a deux parties qui s'accordent sur les conditions, sur les termes de l'alliance. Par exemple, le mariage. C'est une alliance entre deux personnes qui se mettent d'accord pour s'aimer, pour se marier. Et dans cette alliance, il y a Dieu, ça c'est évident. Mais l'autre partie, c'est qui? Et la réponse à cette question se trouve 7 fois dans ces versets, pour qu'il n'y ait pas de doute. Et vous allez tout de suite dire, ah ben c'est l'alliance avec Noé. Oui et non. Parce que là, dans votre Bible, c'est marqué l'alliance avec Noé. Mais ce titre-là n'est pas inspiré de Dieu. C'est rajouté par les traducteurs. Ils ont mis ça. Donc, oui, dans un sens, c'est une alliance avec Noé, mais il y a beaucoup plus que ça. Verset 9. J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Verset 12. Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous et pour les générations à venir. Verset 13. 13, alliance entre moi et la terre. Verset 15, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants. Verset 16, même chose. Verset 17, alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Ce passage ne pourrait pas être plus clair. 7 fois, Dieu souligne que son alliance n'est pas limitée à Noé et à ses fils, mais qu'elle est pour toute l'humanité. L'alliance est pour toute l'humanité, tous les animaux, toute la terre à l'époque de Noé et pour toujours. Ce n'est pas limité à des gens qui croient en Dieu. La bonté et la bienveillance de Dieu s'étendent à tous. La bonté et la bienveillance de Dieu ne sont pas limitées à des croyants. Tous jouissent des avantages et des bénédictions de cette alliance. Toute créature sur terre en profite. Aucune créature n'est exclue. Vos amis qui sont chez vous ce matin, ou chez eux ce matin, en train, je ne sais pas, de laver la voiture, en train de regarder la télé, en train de tondre le gazon, qui sont en route pour la plage, qui ne pensent jamais à aller dans un lieu de culte, cette alliance est pour eux. Cette alliance est même pour les animaux. Dodger, le chien de Michael Purcell, il est inclus dans cette alliance. Il ne sait pas, mais il est inclus dedans. Et qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu? Qu'est-ce que cela nous enseigne concernant Dieu qui fait son alliance avec toute l'humanité, tous les animaux, toute la terre? Ben cela, mes amis, cela nous montre encore une fois la bonté, la bienveillance et la grâce de Dieu. Dieu regarde l'humanité inique et rebelle. Il regarde le mal dans le cœur de l'homme. Il regarde des gens qui blasphèment. Il regarde des gens qui persécutent son peuple. Il regarde les gens qui passent leur vie sans jamais penser à Dieu, sans jamais penser au Dieu qui leur donne la vie. Ces gens qui passent leur vie sans jamais penser à Dieu, jamais remercier Dieu, et malgré leur péché, malgré leur désobéissance, malgré leur méchanceté, ces gens-là sont bénis de Dieu. Ils sont bénis de Dieu. Dieu bénit ces gens par sa grâce commune. Cette alliance fait preuve que Dieu est lent à la colère et riche en amour. Mais ce qui est important à noter, nous voyons ce que cela nous enseigne de Dieu, mais qu'est-ce que cela nous enseigne de nous-mêmes, de l'humanité? L'humanité que refuse de reconnaître cette bonté, cette grâce de Dieu. Paul parle dans Actes 14 du Dieu qui n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ce n'est pas uniquement les chrétiens qui connaissent de la joie, qui ont de la bonne nourriture. La pluie tombe sur les iniques aussi. Le soleil brille sur les gens pervers. Mais dans Romains 1, 21, Paul décrit l'ingratitude de l'humanité. Il dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Jour après jour, des millions et des millions de femmes et d'hommes profitent des bienfaits de cette alliance de Dieu. Ils se lèvent le matin, ils mangent un bon petit déjeuner, ils travaillent un travail satisfaisant, ils ont leur famille, ils ont la joie d'avoir des familles, ils se couchent le soir sans jamais, jamais rendre grâce au Dieu qui leur comble de bonnes choses. Et peut-être même quelqu'un ici, vous ne vous voyez pas comme un grand pécheur. Vous dites que vous n'avez jamais commis de gros péchés, mais vous ne prenez jamais une minute pour réfléchir. Toutes ces bonnes choses que j'ai, elles viennent d'où? Toutes les joies que j'ai, tous les moments de bonheur que j'ai, toutes les bonnes choses, qui m'a donné tout ça? Elles viennent de Dieu. Ces choses viennent de Dieu. Paul dit dans Actes 17, Dieu, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vous recevez des choses grâce à cette alliance. Et avec chaque bonne chose que Dieu vous donne, pour laquelle vous refusez de lui rendre grâce, le jugement de Dieu contre votre ingratitude est en train de monter. Avec chaque bonne chose, et vous ne dites pas merci Dieu, le jugement de Dieu monte contre les ingrats. Vous connaissez peut-être l'histoire de Jésus qui a guéri les 10 lèpres. Combien sont revenus pour le remercier? Un seul. un seul. Et c'est ça une description de l'humanité. La bonté, la bonté, la bonté de Dieu, versée jour après jour. Combien reviennent pour dire merci? Est-ce que vous voyez le scandale de l'ingratitude? Pensez à toute sa bonté, jour après jour. Et si c'est vous ce matin, Dieu vous appelle à vous repentir. Il vous appelle à vous repentir, à reconnaître sa bonté et sa grâce et à vous prosterner devant lui pour le remercier, pour l'adorer. Malgré votre désobéissance, Dieu est incroyablement bon envers vous. Incroyablement bon. Mais c'est maintenant le moment de reconnaître ça et de vous prosterner devant lui. N'abusez pas la bonté et la patience de Dieu. Voilà la nature, la portée de l'Alliance. Et puis en troisième lieu, et je veux passer un peu plus longtemps là-dessus, le signe de l'Alliance. Le signe de l'Alliance. Si vous connaissez votre Bible et vous connaissez un peu le monde dont les alliances faisaient partie, vous saurez qu'il était tout à fait normal de donner un signe pour confirmer une alliance. Un signe pour aider les deux parties à se souvenir de l'alliance. Même de nos jours, quand on se marie, on donne des alliances. On appelle ça une alliance. Pour se rappeler des obligations du mariage. Et c'était le cas dans la Bible. Nous voyons plusieurs exemples des alliances avec des signes. Le signe de l'alliance avec Abraham, c'était, vous savez, peut-être la circoncision. Le signe de l'alliance avec Moïse, c'est peut-être moins bien connu, c'était le sabbat. Et dans la nouvelle alliance, en Christ, les signes sont le baptême et la Sainte Cène. Dimanche dernier, nous avons entendu les mots « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Et quel est donc le signe donné par Dieu à Noé, à nous tous? Versets 12 et 13. Dieu dit « Voici le signe de l'alliance » que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Le signe de cette alliance, c'est l'arc en ciel. Il y en a qui écrivent beaucoup et qui discutent, est-ce que c'est la première fois qu'un arc en ciel est paru dans le ciel? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. À vrai dire, nous ne savons pas. C'est vrai que souvent, pour le signe de l'alliance, d'une alliance, Dieu se servait de quelque chose qui existait déjà. La circoncision existait déjà. Dieu l'a donné une nouvelle signification. Même chose pour le baptême, ça existait. Le sabbat existait déjà. Donc, est-ce que Dieu a créé l'arc-en-ciel pour faire de l'arc-en-ciel un signe, ou est-ce que l'arc-en-ciel existait déjà? Et Dieu l'a pris pour dire, voilà, ce serait désormais un signe. On ne sait pas. Et à vrai dire, ce n'est pas aussi important que ça. Ce qui est important, c'est que Dieu donne un signe. Et il est important de noter ce que dit le texte aussi. Dieu dit, je place mon arc. Un arc, c'est un instrument de guerre. C'est pour tirer des flèches. Pour tuer. Nous ne pensons rarement à ça. Nous pensons rarement à ça quand nous voyons un arc-en-ciel. N'est-ce pas? Nous pensons, ah, c'est pour tuer, c'est une arme de guerre. Et Dieu dit que c'est mon arc. Comme si Dieu a un arc pour tirer. Et si vous pensez à l'arc, il est braqué pas au ciel, pas à la terre, mais il est braqué au ciel. Il n'est pas braqué à la terre, à l'humanité, à la création, qui montre que Dieu ne va pas tirer ses flèches de jugement à la terre. Dieu aurait pu faire un arc-en-ciel comme ça. Il ne l'a pas fait. Dieu ne vise plus la race humaine avec ses flèches de jugement. Donc la prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, souvenez-vous de ça. L'arc du jugement de Dieu n'est pas braqué à la terre. Souvenez-vous de cette alliance. Dieu a promis de ne plus détruire la terre, l'humanité et les animaux, avant le retour du Christ. n'y aura pas de catastrophe universelle et qui est un réconfort pour les gens aux États-Unis et aux Philippines en ce moment. Oui, c'est terrible ce qui se passe, mais ils peuvent savoir que ce n'est pas un déluge universel. Dieu ne va pas détruire toute vie sur Terre. Dieu l'a promis. Mais réfléchissez un instant. Si l'arc n'est pas braqué à la terre, c'est parce qu'il est braqué au ciel. Si les flèches de jugement de Dieu ne sont pas tirées à la terre, c'est parce que ces flèches ont déjà été tirées à quelqu'un d'autre. Si les flèches de jugement de Dieu ne me percent pas, ne vous percent pas, c'est parce que ces flèches ont déjà percé quelqu'un d'autre. Et nous avons déjà vu il y a quelques semaines, les flèches du jugement de Dieu n'ont pas été tirées sur la terre, car elles ont déjà été tirées sur Jésus. Pourquoi alors donner ce signe? À partir de ce moment, l'arc-en-ciel serait un rappel à toute la création de l'alliance que Dieu avait faite avec elle. L'arc-en-ciel serait un rappel de sa bonté, de sa miséricorde, de sa fidélité. L'arc est visible à tous, car c'est un signe d'une alliance faite avec tous. Et dans la bonté de Dieu, il envoie l'arc-en-ciel juste au moment où nous avons besoin de le voir. Un jour comme aujourd'hui ou comme hier, on n'a pas besoin de voir un arc-en-ciel. On ne va jamais penser, tiens, est-ce qu'il va s'arrêter de pleuvoir? Est-ce que ce drame va passer? Est-ce que ces moments de peur vont passer? Ben non, on n'a pas besoin de ça. Dieu envoie juste au moment où on a besoin d'être rappelé de sa promesse. Et nous avons du mal à saisir ça, mais imaginez pour Noé et sa famille, la première fois qu'il y a eu un orage après le déluge. On n'a pas de bateau. Ça fait 4 heures, 5 heures qu'il pleut. Est-ce que Dieu va détruire la terre encore? Et puis il voit l'arc-en-ciel. Ah, Dieu a promis. Dieu a promis. Oui, il savait que Dieu avait promis, mais l'arc-en-ciel était là. Ah, quel soulagement. Quel soulagement. Ça ne va pas durer. C'est au moment de peur, d'angoisse et de crainte que Dieu envoie son signe, son rappel de sa promesse. Quel message de la part de Dieu. Je n'ai pas oublié ma promesse. Je me souviens de mon alliance. Vous êtes en sécurité. Mais regardez bien les versets 15 et 16, parce que nous posons la question, pourquoi ce signe? Nous avons jusqu'ici, nous avons dit, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous rassurer. Mais ce n'est pas ce qui est dans le texte, en fait. C'est vrai que ça nous rassure, c'est vrai que ça nous rappelle, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Les versets 15 et 16, je me souviendrai de mon alliance. Verset 14, l'arc paraîtra dans la nuée et je me souviendrai. Verset 16, l'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle. C'est bizarre. L'arc est là principalement pour Dieu. Est-ce que vous vous posez une question? J'espère que vous vous posez une question. Mais Dieu ne va pas oublier. Ce n'est pas un Dieu qui oublie, qui a besoin de mettre un petit, de coller un petit truc au mur. N'oubliez pas ton alliance avec. Non. Il se sert d'un langage humain pour nous rassurer. Pour dire, en fait, je n'oublierai jamais. Je vais toujours me souvenir. Et l'arc, c'est la confirmation. C'est pour que vous sachiez que je n'oublierai pas. Nous savons que Dieu n'oublie jamais des choses. Nous savons ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons déjà vu l'importance de ce verbe se souvenir. Nous lisons verset 16, je regarderai pour me souvenir. Verset 15, je me souviendrai. Et ce n'est pas simplement une activité intellectuelle. Ah oui, j'avais promis. Non, c'est toujours une façon d'agir. Dieu s'est souvenu de Noé, il a agi pour le sauver. Dieu va se souvenir de son alliance, la pluie va s'arrêter. La pluie va s'arrêter. Il va agir selon cette alliance. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'y a aucune chance qu'il ne tienne pas parole. Et il nous dit ça pour que nous puissions le louer. Pour sa fidélité. Il est digne de notre louange, car il est digne de notre confiance. Il n'oubliera jamais, jamais son alliance. Et si Dieu est digne de notre confiance parce qu'il a gardé, il garde cette alliance avec Noé, n'est-il pas digne de notre confiance dans l'alliance qu'il fait avec nous en Jésus-Christ, dans son alliance de grâce? Il promet de sauver. Il promet de donner un cœur nouveau. Il promet de transformer. Il promet de pardonner. Il promet de donner la vie éternelle à ceux qui se repentent, à ceux qui croient en son Fils. Il promet. Est-ce qu'il est digne de confiance? Oui. S'il est digne de confiance dans cette alliance, il est digne de confiance dans toutes ces alliances. C'est comme ça que Dieu se décrit. Dieu est un Dieu qui agit envers son peuple par le biais de ses alliances. Et nous le louons pour ça. Vous devez prier Dieu de l'alliance. Et en disant ces paroles, votre foi en lui est fortifiée et rendue plus solide. Ce n'est pas un titre, bah, il faut commencer la prière. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, donc je vais dire Père Céleste, Père Tout-Puissant. Non. On dit les paroles pour que notre prière soit basée sur le titre qu'on utilise pour nous adresser à Dieu. Donc, commencez vos prières. Dieu de l'Alliance. Dieu de l'Alliance. Dans notre étude, pour terminer de l'histoire du déluge, nous avons souvent vu que les images, nous avons souvent vu les images de Jésus-Christ. L'arche, par exemple, qui a sauvé la vie de Noé, nous avons vu que c'était une représentation de Jésus-Christ. Si nous sommes, eux, ils étaient dans l'arche, ils étaient sauvés. Si nous sommes en Christ, nous sommes sauvés du jugement de Dieu. La question que je veux poser maintenant, c'est est-ce qu'il est possible que l'arc-en-ciel nous parle de notre Seigneur? Est-ce que nous devons voir Jésus dans l'arc-en-ciel? Nous avons déjà lu les paroles du prophète Ézéchiel, où le prophète a une vision de Jésus. Il dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus du haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. C'est la vision du Christ. Et qu'est-ce qu'il voit encore? Tel aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était comme s'il y avait un arc-en-ciel. Il regarde Jésus, il voit un arc-en-ciel. Et même chose dans le livre de l'Apocalypse. Jean qui a encore une vision du ciel où il voit Jésus, il dit « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel. » Au ciel, autour du trône de Jésus, il y a un arc-en-ciel. Et Ézéchiel et Jean, tous les deux, font un lien entre l'arc-en-ciel et Jésus sur son trône. Réfléchissez. L'arc-en-ciel, c'est un signe de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Jésus, pareil. C'est Dieu, le même Dieu qui a donné l'arc-en-ciel et le même Dieu qui a donné son Fils. L'arc-en-ciel est donné dans le contexte de jugement contre le péché, Jésus est donné dans le contexte de jugement contre le péché. Nous avons besoin de voir Jésus, de voir l'arc-en-ciel pour savoir qu'on est sauvé du péché. Et nous avons besoin de Jésus pour sauver, pour savoir qu'on est sauvé du péché. L'arc-en-ciel donne de l'espoir. Jésus donne de l'espoir. L'arc-en-ciel nous rappelle un Dieu de grâce, de pardon, de miséricorde, un Dieu qui donne la vie. Pareil pour Jésus. Mais peut-être le plus important, vous vous souvenez, Dieu a dit qu'il allait regarder l'arc-en-ciel et qu'il saurait, il se souviendrait de son alliance. Et Jésus, Dieu, quand il regarde Jésus, quand Dieu voit l'arc-en-ciel, il n'en voit pas son jugement. Et quand Dieu voit son fils Jésus et les marques sur ses mains, sur ses pieds et ses côtés, il n'en voit pas son jugement. Il retient son jugement parce qu'il a déjà envoyé sur Jésus. Il se souvient des flèches de sa colère qui ont percé Jésus. Mes amis, j'espère que vous avez toujours apprécié et admiré la beauté d'un arc-en-ciel. J'espère que vous avez pris le temps de le regarder. Mais nous devons faire plus que ça. Ce n'est pas simplement un objet de beauté. Ce n'est pas simplement quelque chose à admirer, c'est quelque chose qui nous rappelle la bonté, la bienveillance, la grâce, la patience, la fidélité, la miséricorde de Dieu. C'est un objet qui nous dirige vers Jésus. C'est un objet qui nous dirige vers Jésus. Quelle tristesse que cet objet a été kidnappé, je vais dire, par la communauté LGBT. Pour dire, voilà ce qui est l'amour. Non. L'arc-en-ciel nous rappelle un amour encore plus grand que cet amour-là. L'amour de Jésus qui a subi les flèches de jugement de Dieu. Et un mot d'avertissement pour terminer. Je viens de dire que l'arc de Dieu est braqué au ciel. Et Dieu a promis que ce sera toujours le cas, tant que la terre subsistera. Mais le jour viendra où Dieu prendra son arc et le tournera. Et les flèches de jugement seront tirées sur la terre. Le jour viendra où Dieu prendra son arc pour tirer ses flèches de jugement sur la terre. Si vous êtes en Jésus-Christ, la flèche de jugement sur votre péché a déjà été tirée sur Jésus, a déjà percé les mains, les pieds de Jésus. Vous êtes en sécurité. C'est comme Jésus se met entre vous et la flèche. Et lui, il est percé, et pas vous. Mais si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas en Christ le jour de ce jugement, il n'y aura personne pour se mettre entre vous et la flèche de jugement de Dieu. Et quand Dieu tire ses flèches de jugement, il ne rate pas. Il ne rate pas. Est-ce que vous voulez, le jour du jugement, vous tenir tout seul devant Dieu? Ou est-ce que vous voulez que Jésus soit devant vous pour vous protéger? Êtes-vous prêt pour ce jour? Vous ne savez pas à quel moment ce jour viendra. Êtes-vous prêt pour ce jour? Amen.